Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Dans le cadre de notre série d'émissions quotidiennes sur les lettres des pères du désert, voici quelques pages très belles des moines de Gaza du VIe siècle. Complètement cloîtrés dans leurs cellules, ils ne communiquaient avec leurs dirigés que par écrit. Et une grande partie de cette correspondance a été conservée. Les lettres des reclus de Gaza se distinguent entre toutes par leur caractère simple et familier, sans rien d'artificiel ni de conventionnel. Elles gardent à ce titre surtout une valeur documentaire de premier ordre, en nous introduisant directement dans l'intimité des relations entre maître et disciple. Elles nous permettent de saisir au vif la pratique de la direction. Voici donc quelques-unes de ces lettres. Un moine demande au saint vieillard comment faut-il examiner les pensées et comment éviter la captivité des passions. Réponse de Jean. Examiner les pensées, c'est lorsque la pensée se présente, observer ce qu'elle engendre. Je te donne un exemple. Suppose que quelqu'un t'a outragé et que tu es harcelé par la pensée de lui faire des remontrances. Dis donc à la pensée, si je lui parle, je le troublerai et il sera fâché contre moi. Mieux vaut donc supporter un peu et cela passera. S'il s'agit non d'une pensée que l'on a contre un homme, mais d'une pensée mauvaise que l'on a en soi-même, alors il faut examiner la pensée et dire « Où aboutira cette pensée mauvaise ?» À quoi la pensée de Dieu te répond ? C'est dans la géhenne qu'aboutit la pensée mauvaise et celle-ci te laissera tranquille. Et pour toutes les pensées, fais la même chose. Aussitôt que la pensée survient, examine-la et retranche-la. Quant à la captivité des passions, il faut beaucoup de vigilance, afin que, comme disent les pères, si elle s'empare de ton esprit pour l'entraîner à la fornication, tu le diriges vers la pureté. Si c'est à la gourmandise, tu le portes vers la tempérance. Si c'est à la haine, tu le diriges vers la charité. Et de même pour les autres passions. Ne t'attriste pas, car tu vas trouver miséricorde selon les promesses que tu as reçues. En effet, si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Qu'est-ce que l'humilité ? L'humilité, c'est se tenir pour terre et cendre, en œuvre et non pas seulement en parole. C'est dire « Qui suis-je ? Qui m'estime ? Je n'ai affaire avec personne. » Parlons maintenant du sacrifice d'Abraham. Pourquoi Dieu, après les promesses faites au saint patriarche Abraham, l'éprouva-t-il encore ? Il est écrit en effet « Et après ces paroles, Dieu tenta Abraham. » Quelle parole ? Celle des promesses précisément. C'est Abraham, son ami, qui lui avait offert un sacrifice volontaire, qui ne méritait pas de souffrir, rien de pareil. À qui il avait compté sa foi comme justice, Dieu le laissa tomber dans la tentation pour l'éprouver et confondre les puissances des ténèbres, pour en faire un modèle des croyants. Car ceux-ci doivent passer par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est par la patience avec laquelle ils les supportent, en rendant grâce à tout, qu'ils sauvent leurs âmes. Venez, les bénis de mon Père, prendre possession du royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Comment acquérir l'humilité parfaite ? Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, dit le Christ dans l'évangile de saint Matthieu. Quant à la prière parfaite, qu'est-ce que c'est ? C'est parler à Dieu sans distraction, en recueillant toutes ses pensées ainsi que ses sens. Et ce que y mène l'homme, c'est de mourir à tout homme, au monde et à toutes les choses du monde. Il n'y a rien de plus à dire à Dieu dans la prière que ceci. Délivre-moi du mal et que ta volonté soit faite en moi. Il faut faire en sorte que l'esprit soit présent à Dieu et lui parle. On reconnaît qu'on prie lorsqu'on est délivré de la distraction et lorsqu'on voit que l'esprit se réjouit d'être illuminé dans le Seigneur. Et le signe qu'on a touché à la prière parfaite, c'est de n'être plus troublé, même si le monde entier s'attaquait à nous. Celui-là prie parfaitement, qui est mort au monde et à son repos. Faire pour Dieu avec soin son travail, cela n'est pas de la distraction, mais du zèle selon Dieu. Il est profitable de lire la vie des pères, car ainsi l'esprit est illuminé dans le Seigneur. À propos maintenant de la tempérance. Les pères disent que soit pour le manger, soit pour le boire, il faut rester un peu en deçà, c'est-à-dire ne pas se remplir le ventre ni de nourriture ni de boisson. Et on doit déterminer une mesure pour les aliments cuits et le vin. En hiver, on ne boit pas beaucoup, et même alors, il faut rester un peu en deçà. En été, on boit davantage. Il faut rester aussi un peu en deçà. De même pour la nourriture. D'autre part, ce n'est pas seulement dans le manger et dans le boire qu'il y a une mesure à garder, mais aussi dans la parole, le sommeil, le vêtement et en toutes les satisfactions des sens. Et tout cela se trouve aussi dans la mesure de la tempérance. À propos maintenant de la charité, que Dieu vous accorde la ferveur brûlante de cette charité. Le Seigneur vous donnera en effet l'assurance qu'il porte jusqu'au septième ciel les hommes qui la possèdent. Comme quelques-uns y sont déjà montés avec confiance et l'ont chanté, dans leur corps et en dehors de leur corps, je ne sais, c'est Dieu qui le sait. Et afin que vous connaissiez le début du chemin qui mène à cette joie, écoutez. D'abord vient à l'homme l'Esprit Saint. Alors il lui enseigne tout, comment il faut penser aux choses d'en haut, ce que vous ne pouvez pas faire maintenant. Ensuite, guidé par cette première brûlure, il monte jusqu'au premier ciel, puis au second, et progressivement jusqu'au septième. Et là, il peut contempler des choses ineffables et terribles, que personne ne peut saisir sinon ceux qui sont parvenus à cette perfection, dont le Christ vous jugera digne. Ceux qui sont morts parfaitement au monde, par le support de nombreuses tribulations, peuvent y parvenir. Ô frère bien-aimé, le Seigneur a supporté la croix, et toi, tu ne te réjouis pas dans les tribulations, dont l'acceptation patiente conduit au royaume des cieux. C'est à bon droit que tu dis être affligé. Mais ne sais-tu pas que lorsque quelqu'un demande au Père de prier pour lui ou à Dieu de lui porter secours, c'est alors que les afflictions et les tentations se multiplient pour lui, afin qu'il soit éprouvé. Ne recherche donc pas le repos corporel. Si le Seigneur ne te le donne, comme tu l'as déjà entendu dire par mon compagnon, car tout repos de la chair est une abomination aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur a dit, « Dans le monde, vous aurez la tribulation. Que le Seigneur t'aide en tout. Pardonnez-moi pour ce que j'ai dit, car j'ai parlé comme un prétentieux et prié pour moi. J'ai dit en effet que je sais au sujet d'autres personnes, des saints.
الله وأمي جئتك الآن خاشعا أمام ناظري ضارعا إلي ملقيا علي أتعاب قلبي أنت يا قادرة فاستجيبين لي رضاك سيدة المستحيل يلبس الليل سرقة السماء
Un moine demande : comment sait-on si la tentation vient de la concupiscence ou de l'ennemi ? Barsanuf lui répond : frère, sans labeur du cœur et contrition, nul ne peut être guéri des passions et plaire à Dieu. Quand donc quelqu'un est tenté par sa propre concupiscence, c'est qu'il s'est négligé et qu'il a laissé son cœur réfléchir sur ses actions d'autrefois, et alors, de lui-même, il déclenche en lui l'impulsion de sa propre concupiscence. Et peu à peu, l'esprit aveuglé commence inconsciemment à regarder celui pour lequel il a de l'attirance ou à lui parler. Et il se procure des prétextes pour lui parler ou s'asseoir près de lui. Et par toutes les voies, il arrive à satisfaire sa passion. Donc, laisser son esprit s'abandonner à cela, c'est alimenter le combat jusqu'à la chute, sinon de corps, au moins d'esprit dans les consentements. Et l'homme se trouve ainsi, allumant le feu dans sa propre forêt. Au contraire, l'homme vigilant et sage qui veut être sauvé, voyant d'où vient le dommage, se garde avec un soin minutieux d'une pensée mauvaise pour ne pas s'attarder dans les passions elles-mêmes. Il évite un regard, une rencontre et tout prétexte, dans la crainte d'allumer en soi l'incendie. Voilà le combat qui vient de la propre concupiscence, c'est-à-dire de la volonté. Quant au combat qui vient du diable, voici comment il se présente. Le cœur de celui qui veut être sauvé appréhende d'accueillir la semence de l'ennemi. Et c'est pourquoi il se garde, lui, avec vigilance, même d'une pensée mauvaise, pour ne pas s'attarder avec les passions, et aussi d'un regard, d'une rencontre et de tout prétexte. Si même il y a nécessité de traiter une affaire, avec celui ou celle pour laquelle on éprouve une passion, mieux vaut ne pas s'occuper de la chose et ne pas perdre son âme. Sois vigilant, frère. Tu es mortel et éphémère. Ne consens pas, pour un petit moment, à perdre la vie éternelle. Que rapporte la puanteur et l'impureté du péché, sinon honte, opprobre et scandale ? La tempérance, au contraire,